Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur le pardon de la femme adultère, dans Jean chapitre 8, verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivit sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Amen. » Il y aura toujours des gens pour vous accuser et pour dire du mal de vous. Et en général, ces gens sont toujours les plus nombreux. Un petit peu comme dans le cas de cette femme, où il y avait contre elle une multitude et elle se sentait faible et accusée à cause de ce qu'elle avait fait. Certains vont même vous condamner sans procès. Ils ne pardonneront pas vos erreurs et ils ne vous soutiendront pas si vous êtes en difficulté. Il faut savoir que Jésus lui-même était parfait sans péché et qu'il n'a jamais fait de mal. Il aimait tout le monde. Et pourtant, il y avait toujours des détracteurs contre lui. Dans Matthieu chapitre 11, verset 19, par exemple, ce n'est qu'un exemple des condamnations qui étaient sur Jésus. Il dit ceci, le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, est venu mangeant et buvant, et il dit, c'est-à-dire les pharisiens, les scribes, dont on a vu leur attitude par rapport à cette femme. Ils disent donc, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Donc, Jésus était critiqué, Jésus était accusé, alors qu'il n'avait rien fait de mal. Il côtoyait des pécheurs, mais pour leur apporter la bonne nouvelle, pour les enseigner, pour leur montrer le chemin qui mène à la vie, qui mène au Père. Même si vous faites le bien, même si comme Jésus vous portez un message d'espérance, vous donnez de bonnes paroles, eh bien certains néanmoins vous jugeront, vous accuseront, vous mépriseront. Et ils sont là et ils attendent qu'une chose, c'est votre propre faute pour observer un faux pas. Mais si vous connaissez Jésus, si vous l'avez accepté dans votre vie, nous pouvons dire ce matin que nous avons un avocat auprès du Père. C'est le Seigneur. Et il défend notre cause. Parce que dans un procès, la meilleure personne qui pourra vous défendre, c'est un avocat. Ce n'est pas vous-même qui allez porter votre cause devant la justice, mais c'est un avocat qui ira parler pour vous. Eh bien, dans le monde spirituel, c'est un petit peu la même chose. Il y a un accusateur, et la Bible l'appelle le diable, Satan, celui qui accuse. La Bible dit qu'il accuse les élus de Dieu jour et nuit. Donc, il y a bien un accusateur sur le plan spirituel. Mais nous avons aussi un avocat, c'est Jésus qui plaide notre cause devant le Père. C'est pourquoi il nous faut avoir Jésus dans notre vie, qui est notre avocat et qui plaidera pour nous. Alors je reviens à ce texte où nous avons pas mal d'accusations, mais dans les versets 1 et 2, je reviens sur le lieu secret qu'il nous faut trouver. Il est dit que Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Et dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui, et s'étant assis, il les enseignait. Mais le premier point que je vois dans ce passage, c'est qu'il nous faut trouver le lieu secret où nous sommes dans la présence de Dieu, parce que Jésus passait du temps sur la montagne des Oliviers, ce n'était pas pour passer du temps à perdre, mais c'était du temps pour se ressourcer dans la présence du Père. Et c'est important pour nous encore aujourd'hui d'avoir un lieu où on va se ressourcer dans la présence de Dieu. On va passer du temps avec lui, on va être en communion avec lui, on va recevoir sa pensée, sa parole. Jésus en parle dans Matthieu 6:6. Il parle, il y a un lieu secret à trouver. Il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc il y a la prière et il y a le lieu secret. Et ce lieu secret, c'est à chacun de le trouver. C'est un temps où on va se mettre à part, se dégager des mails, du téléphone, des réseaux sociaux, on les met de côté et on se concentre sur Dieu, exclusivement sur Dieu. Et ça, c'est un temps de cœur à cœur que nous devons prendre chaque jour. Jésus ne dit pas « si tu pries », mais « quand tu pries ». Ça doit être quelque chose de régulier. On le sait que si vous avez un téléphone portable, on sait que la batterie se vide au bout d'un moment et il est nécessaire de la recharger. Eh bien, notre cœur, en quelque sorte, est comme une batterie qui se vide. Il se vide chaque jour, il se vide. Il se vide, il se vide, il se vide. Mais quand vous entrez dans la présence de Dieu, c'est comme si vous rechargez la batterie. Vous rechargez votre cœur. Vous rechargez dans la présence de Dieu. Et quand vous rechargez le téléphone, il ne se passe rien en particulier. Il est comme éteint, il ne réagit pas, mais il est en train de se charger. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, même si en apparence il ne se passe rien, vous êtes en train de recharger vos forces spirituelles et vous pourrez affronter la journée et les difficultés qui surviendront parce que vous aurez la batterie bien chargée. Et ça, c'est important de le faire chaque jour. Le temps passé dans le lieu secret, c'est jamais du temps perdu. Ah, souvent on me dit, mais j'ai pas le temps, je suis trop occupé, j'arrive pas à faire tout ce que je veux faire, alors j'ai pas le temps pour Dieu. Mais c'est pas du temps perdu, ça doit même être un temps prioritaire dans notre agenda. C'est ce qu'on doit mettre en premier. Pourquoi ? Parce que si nous négligeons ce temps avec Dieu, eh bien tout le reste va être chaotique. Au contraire, dans ce temps passé avec Dieu, c'est du temps investi pour l'œuvre de Dieu. Et c'est du temps où vous allez avoir des pensées renouvelées, vous allez prendre des meilleures décisions, vous allez avoir des pensées plus inspirées. Et quand tu arriveras dans la journée, telle ou telle orientation, vous pourrez prendre la décision qui est selon le cœur de Dieu parce que vous aurez eu ce temps. Donc ce n'est jamais du temps perdu. Si on n'a pas pris ce temps, on peut perdre du temps. On va prendre des mauvaises décisions, des mauvais choix, une mauvaise direction, on va faire demi-tour, on va s'égarer et finalement on a perdu du temps. Mais si on a pris sérieusement ce temps de cœur à cœur dans ce lieu secret, au contraire, nous gagnons du temps. Alors Jésus passait du temps sur la montagne pour être ressourcé avec Dieu, c'est ce que nous devons faire. Mais il ne restait pas définitivement dans la montagne, il redescendait dans la vallée pour aller annoncer le message de l'espérance. C'est-à-dire que nous ne devons pas nous isoler du monde, nous mettre à part et puis se dire « voilà, c'est fini ». On s'isole dans la présence de Dieu et puis on ne va plus du tout dans le monde. Non. Nous nous isolons dans la présence de Dieu pour recharger nos batteries, pour être fortifiés. Mais l'objectif, c'est de retourner dans la vallée, d'aller dans le monde et de porter le message de l'espérance, de la bonne nouvelle. Mais si nous n'avons pas cette lumière en nous, cette force en nous, eh bien nous ne pourrons pas la porter autour de nous. C'est pourquoi Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde. » Chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Et regardez Matthieu 5, 16, il dit, c'est Jésus qui parle, « Que votre lumière, la lumière de qui ? La lumière des croyants, des enfants de Dieu. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. » Et l'objectif, c'est qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux, qu'on soit une source de témoignage. Ces gens vont avoir soif. Ils vont voir dans la lumière. Ils vont voir en vous la lumière, ils vont voir en vous quelque chose qu'ils n'ont pas, et ils vont avoir soif, et ils vont chercher Dieu. Ça, c'est vraiment le témoignage que nous devons donner. Donc, passer du temps dans la présence de Dieu, oui, pour aller plus loin, pour aller dans le monde, pour briller de la lumière de Dieu et apporter l'amour de Dieu autour de nous. Donc, remarquez bien comment se passe ce passage, chapitre 8, verset 1. Ça commence par la montagne, ça commence par un cœur à cœur avec Dieu, ça commence par un temps de communion avec Dieu. Et ensuite, Jésus redescend dans la vallée, et c'est là où on arrive au verset 3. Et de suite, là, c'est les combats, là, c'est les accusations, là, c'est les défis. Mais si on ne prend pas le temps d'être renouvelé, ressourcé, comment allons-nous traverser les accusations, les défis, les soucis de cette vie? Eh bien, nous serons abattus, nous serons perdus, nous n'aurons pas les réponses. Mais voyez, verset 3, de suite, les scribes, les pharisiens, et ça c'est spirituel, ils étaient là pour piéger Jésus, ils amènent une femme surprise en adultère, la placent au milieu du peuple et ils disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dit dans la loi de nous ordonner de lapider de telles femmes. Et toi donc, que dis-tu ?» Ah, ça c'était un piège pour le pousser à la faute. Les scribes et les pharisiens donc commencent par accuser cette femme surprise en adultère et l'amène devant Jésus et le peuple, il y aura des témoins. Ce qu'a fait cette femme est mal et condamnée par la parole de Dieu. Cette femme le savait. Les pharisiens le savaient, Jésus le savait. Qu'était-il arrivé pour qu'elle commette l'adultère? Nous ne savons pas. Qu'est-ce qui l'a poussée à se détourner de son mari? Nous ne savons pas quelle était l'attitude de son mari à son égard pour qu'elle en arrive là. On n'avait pas le contexte. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que le diable, il pousse toujours à la séparation, à la division, à la destruction des couples et des familles. Ça, c'est vrai encore aujourd'hui. C'était vrai à l'époque. Derrière cet adultère, il y a toujours l'ennemi qui pousse à la division, au mensonge, à la séparation, à la destruction des familles. Mais il le fait d'une manière que ça paraisse positif. C'est-à-dire que le péché, ici en l'occurrence l'adultère, il va laisser entrevoir à cette femme un certain bonheur ou un certain plaisir à aller dans l'adultère. Et donc il tisse sa toile. Peut-être vous pensez, ben, moi mon mari est dur avec moi, alors je serai plus heureuse avec ce collègue de travail. Il est bon avec moi, il m'invite au restaurant, il me fait des compliments, mais mon mari, il me critique, il me juge. Et donc, on va voir qu'une relation extra-conjugale est plus positive que la relation conjugale. Eh bien, ça, c'est l'art du diable de montrer que le péché, c'est quelque chose de finalement positif. Et il agit comme cela pour déclencher dans les êtres humains cette volonté de rompre, de quitter une union conjugale pour aller dans une autre union. Satan, c'est le menteur et le père du mensonge. Alors toujours, il vous fera croire le péché, c'est pas grave. Et puis, il vous dira, bah, tout le monde le fait. Ou alors, il vous dira, bah, personne n'est parfait. Alors, on peut bien avoir des exceptions de temps en temps. Il est en train de tisser sa toile pour vous piéger. Alors, nous connaissons ses agissements. La Bible dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, ses desseins, ils sont clairs. C'est la destruction des couples, des familles, la destruction des relations conjugale, la séparation, le divorce, l'adultère, toutes ces choses-là, ils poussent dans cette direction. Et quand vous commettez une faute, il y aura toujours des gens pour vous critiquer, pour vous accuser. Ici, c'est les scribes et les pharisiens qui vont critiquer, qui vont accuser cette femme. Mais il y en a qui vont vous accuser pour vos erreurs. Ils vont vous dénigrer. Ils vont peut-être même vous humilier en public, comme c'est arrivé pour cette femme, elle est humiliée en public. C'est-à-dire qu'ils n'auront aucune compassion pour vous. Moi, je remarque une attitude différente chez Jésus. On sait que Pierre était un des disciples du Seigneur, il aimait beaucoup le Seigneur. Mais il était orgueilleux. Il était orgueilleux, il était un peu vaniteux. Et il disait aux autres, même si tous t'abandonnent, il disait au Seigneur, tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. Il était un peu orgueilleux. Or, quand Jésus a été livré pour être crucifié, Pierre a abandonné le Seigneur comme les autres. Mais non seulement il a abandonné le Seigneur, mais à trois reprises, il a dit « Mais je ne connais pas cet homme ». Donc trois fois, il a renié le Seigneur. Et Jésus le savait. Mais quand Jésus a revu Pierre après sa résurrection, il a dit à Pierre « Et toi, Pierre, m'aimes-tu ? M'aimes-tu ?» Et évidemment, Pierre avait renié, et il savait qu'il avait renié. Mais Jésus ne vient pas en lui montrant son péché, en lui montrant sa faute, et en l'humiliant devant tout le monde, pour le dénigrer, mais il est en train de renouer en lui quelque chose, une relation qui a été brisée. Et Pierre dit « Oui, tu sais que je t'aime ». Donc cette relation, elle est en train de se reconstruire. Alors Jésus lui dit « paie mes agneaux ». Et à nouveau, Jésus lui demande « Mais Simon Pierre, m'aimes-tu ? » Et Pierre ne comprend pas pourquoi il lui pose deux fois la question, mais il dit « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime ». C'est étrange quand le Seigneur vous pose deux fois la même question. Mais le Seigneur revient une troisième fois sur la même question. « Simon Pierre, m'aimes-tu ? » Donc à chaque fois, Jésus lui dit « Paie mes agneaux, paie mes brebis ». Et là, Pierre ne comprend pas une troisième fois, il dit « Mais tu sais toutes choses ?» Eh oui, frères et sœurs, Jésus sait toutes choses. Et Jésus savait que Pierre avait renié le maître. Mais Jésus n'était pas là pour le condamner, il n'était pas là pour l'humilier publiquement. Mais il lui dit « Paie mes brebis, paie mes brebis ». Ça veut dire « Pierre, je te pardonne, Pierre, je te réhabilite dans ton ministère ». Tu es appelé à être un berger pour les brebis, eh bien moi, je te réhabilite. Tu as fait un faux pas, tu as demandé pardon, tu t'es repenti, maintenant tu vas reprendre le chemin pour servir. Eh bien voilà comment agit Jésus quand il y a une situation de difficulté, et non pas comme les pharisiens qui sont là pour juger, condamner et abattre. Les pharisiens vont même citer la parole de Dieu. Ils disent... Mais il est écrit dans la parole, c'est-à-dire dans la loi de Moïse, au verset 5. La loi de Moïse, c'est donc les cinq livres, les premiers cinq livres donc, de l'Ancien Testament, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et dans cette loi, il est stipulé un certain nombre d'articles qui font référence à l'adultère. Et ils vont donc citer la Bible, pour dire la loi de Moïse, pour dire « cette femme doit être lapidée ». Certains peuvent même utiliser des versets de la Bible pour vous détruire. 2 Corinthiens 3,6 dit ceci, « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » On peut dire ici que les pharisiens utilisaient la lettre, mais pour tuer, pour détruire, pour faire du mal. Mais la lettre, elle est utilisée par l'Esprit, elle vivifie. Et ça, c'est Jésus qui, lui, va utiliser la même lettre, parce que Jésus, c'est la parole. Jésus n'a rien fait contre la parole, mais il va utiliser la lettre pour bénir. Parce que les accusateurs ne citent pas de parole dans l'Écriture où Dieu fait miséricorde, où Dieu fait grâce, où Dieu est bon. Ils vont citer juste une parole de condamnation. Mais il y a l'amour de Dieu, il y a la grâce de Dieu, il y a la compassion. Et cette femme n'a pas besoin à ce moment-là d'une parole de jugement ou de condamnation. Elle sait que ce qu'elle a fait est mal. Elle est déjà accusée dans sa conscience, mais elle a besoin d'une parole de grâce et d'un retour à Dieu pour être pardonnée de ses péchés. Qui va lui donner ce pardon ? Pas ces hommes. Ces hommes sont venus avec la condamnation, le jugement. Elle sait qu'elle ne mérite pas le pardon. Elle sait que ce qu'elle a fait est mal. Elle sait qu'elle mérite d'être condamnée. Jésus le sait aussi. Mais elle a besoin d'une deuxième chance dans sa vie. Qui va lui donner cette deuxième chance? Qui lui donnera un nouveau départ? Qui vous tendra la main quand vous avez mal agi? Qui vous donnera une deuxième chance dans votre vie si vous avez raté? Qui pourra guérir votre cœur qui a été brisé par le péché? Ce n'est pas la condamnation, ce n'est pas la loi, mais c'est la grâce de Dieu. C'est Jésus qui vient lui-même. Donc cette deuxième chance, Jésus vient, je dirais qu'il vient pour cette femme, mais il vient pour chacun de nous, parce que Jésus est venu d'abord pour sauver, dans le sens de donner sa vie pour nos péchés. Alors peut-être vous n'avez pas commis un adultère, mais vous avez néanmoins commis un péché quelque part. Parce que tous ont péché, c'est Paul qui le dit dans Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire que tous ont commis l'adultère, mais tous ont péché d'une manière ou d'une autre. Tous ont fait quelque chose qui est contre Dieu à un moment donné. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voilà le problème, c'est que tous ont péché et nous aussi, on a péché. Les pharisiens qui accusent cette femme, ils avaient péché. Ils vont s'en rendre compte au bout d'un moment. Et le péché, c'est comme une sorte de cancer invisible qui nous détruit de l'intérieur. Alors c'est vrai que si vous passez un scanner, on ne va pas voir le péché. On va voir ce qu'il y a dans le corps, mais le péché, on ne le voit pas, c'est spirituel. Néanmoins, le cancer, il a commencé à détruire votre vie spirituelle et à vous amener vers la mort spirituelle. Et si vous ne faites rien, le cancer, lui, il continue son travail. Il est en train de vous détruire de l'intérieur. Et vous mourrez dans vos péchés. C'est pourquoi Jésus est venu et il a versé son sang afin que nous soyons pardonnés du péché. Ça, c'est l'étape fondamentale. Un jour, il y a un homme qui visitait une fabrique de papier de luxe. Et dans l'entrée de la fabrique, il y avait des camions qui déversaient des énormes amas de vieux tissus, des tissus de toutes les couleurs qui étaient vraiment sales et qui ne sentaient pas bon. Et donc, il y avait toute cette ambiance nauséabonde, mauvaise à cet endroit-là. Et puis, on les a introduits dans l'entreprise et jusqu'à la pièce où on exposait les magnifiques papiers qui servaient à des impressions de luxe, des impressions de très haute qualité. Et celui qui faisait la visite expliquait, voyez, c'est à partir de ces vieux chiffons que vous avez vus à l'entrée que nous avons produit ces papiers de qualité extrême et puis ils étaient blancs, impeccables. Ça, c'est l'industrie humaine. L'industrie humaine est capable, avec des vieux chiffons, de faire des papiers de très haute qualité. Mais notre Dieu, il est capable de prendre des vies dans le péché et de les transformer pour être pardonné des péchés et avoir une vie nouvelle. C'est encore plus extraordinaire. C'est encore plus puissant. Parce que le péché, il n'y a rien dans le monde qui peut effacer ça. Donc, Jésus est venu, il a versé son sang pour vous. Jésus, c'est le seul sauveur. Si vous voulez être pardonné de vos péchés, c'est Jésus qui vous faut. La rédemption, dont il est question dans ce verset, on a dit, on est justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. La rédemption, c'est quoi ? Ben, c'est que Jésus a payé notre dette à la croix et qu'il nous a libérés de l'esclavage. Vous allez dire l'esclavage de quoi ? Ben, l'esclavage du péché, parce que tant qu'on est dans le péché, on est esclave du péché. La grâce est là pour tous, mais il manque une seule chose pour être sauvé, c'est la repentance et la foi. La repentance et la foi, c'est comme les deux faces d'une même pièce. Par exemple, si vous vous repentez mais que vous ne croyez pas, vous ne serez pas pardonné. Si vous croyez mais que vous ne vous repentez pas, vous ne serez pas pardonné. Il vous faut la repentance, demander pardon pour vos péchés, et il vous faut croire en Jésus. Jésus, c'est le seul antidote au pardon des péchés. Je prends l'exemple du serpent le plus venimeux du monde, c'est le membran noir. C'est un serpent qui fait 4 mètres de long, qui va à 20 km/h, et s'il vous mord en quelques minutes, vous mourrez à cause du venin extrêmement toxique qui paralyse les muscles respiratoires, vous vous étouffez, et il peut tuer un être humain en quelques minutes. Mais si vous prenez l'antidote, le venin ne fera pas son ouvrage, il sera anéanti. L'antidote vous sauvera la vie. Eh bien, Jésus, c'est vraiment l'antidote au péché. Si vous acceptez Jésus, le venin du péché ne vous détruira pas, mais vous aurez la vie et la vie éternelle. Ça, c'est la grâce de Dieu. J'arrive au troisième point, c'est le verset 6. C'est maintenant Jésus lui-même qui est accusé par les pharisiens. Donc, ils ont commencé, un, par accuser cette femme. Deux, au verset 6, ils accusent Jésus. Ils disaient cela pour l'éprouver, donc éprouver Jésus, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Donc Jésus est maintenant accusé par les pharisiens. En fait, ces hommes ne s'intéressaient pas tellement à cette femme, mais ils voulaient piéger Jésus en réalité. C'était un prétexte pour amener Jésus à faire une faute. Et ils viennent comme des hypocrites, voyez, ils disent « Maître, Maître », en parlant à Jésus, semblant dire « Seigneur, enseigne-nous, explique-nous la Bible, explique-nous ». Mais Jésus voyait dans leur cœur quelque chose de mauvais. Et ça, on ne peut pas tromper le Seigneur, parce qu'on peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Les hommes viennent avec des paroles fausses, mais Jésus lit dans les cœurs. Un jour, il y a quatre hommes qui ont amené à Jésus un paralytique. Et la Bible dit, Jésus voyant leur foi, c'est intéressant parce que Jésus voit aussi notre foi, il voit la sincérité de notre cœur, il voit notre démarche, il voit si nous sommes fidèles, si nous sommes sérieux, donc Jésus voit tout. Jésus voyant leur foi dit à cet homme paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Et au même instant, des scribes et des pharisiens qui assistaient à la scène ont pensé en eux-mêmes, donc ils n'ont même pas ouvert la bouche, ils se sont dit dans leur cœur, en parlant de Jésus, ils ont dit cet homme blasphème. Et ils ont commencé à le critiquer, à le juger, dans leur cœur. Et la Bible dit, Jésus connaissant leurs pensées. D'un côté, il voit la foi de ces quatre amis plus le paralytique. De l'autre côté, il voit les pensées de ses accusateurs, de ceux qui le dénigrent, alors qu'ils ne montraient rien en apparence. Et Jésus leur dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile de dire à cet homme? Lève-toi, sois pardonné de tes péchés ou lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi et marche. Et cet homme a été non seulement guéri, mais pardonné de ses péchés. Qu'est-ce que nous montre ce récit? C'est que Jésus connaît nos intentions et notre cœur et nos mauvaises pensées. Alors, quel est le but des scribes et des pharisiens? Ils veulent pousser Jésus à contredire la loi de Moïse. Parce qu'ils disent à Jésus, « Maître, la loi dit que... » Toi, qu'est-ce que tu dis? Ils espéraient que Jésus allait dire le contraire de la loi. Parce que si Jésus fait grâce et que la loi condamne, à ce moment-là, ils auront une bonne occasion d'accuser Jésus en disant, « Voyez, il ne fait pas ce que dit la loi. » Alors, certains vont essayer de vous pousser à la faute, un petit peu comme ces scribes et ces pharisiens, pour vous faire craquer nerveusement, ils vont vous harceler moralement. Mais dans ces situations extrêmes, peut-être vous êtes seul, mais vous avez besoin d'une parole de Dieu, une parole de sagesse. Et un don spirituel, c'est ce que Jésus va recevoir. Parce qu'il ne répond pas tout de suite, il écrit sur le sol, dans le silence. Mais lorsqu'il se redresse, il va donner une des paroles les plus connues de l'Écriture. « Que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. » Et à ce moment-là, tous se sont tus. Jésus leur dit en quelque sorte, « Vous voulez appliquer la loi à la lettre? Alors commencez par l'appliquer dans votre propre vie. » Matthieu 7,3, il dit, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans le tien ?» Et il est en train de renverser leur accusation envers eux-mêmes. Parce que quand vous accusez quelqu'un, vous vous condamnez vous-même. Et ils sont en train d'appeler la condamnation sur eux. Donc le quatrième point maintenant, c'est au verset 9. Ce sont les accusateurs qui vont se retrouver accusés par Jésus, au verset 9. Quand ils entendirent cela, donc cette parole de Jésus, accusés par leur conscience, voilà que eux qui étaient venus pour accuser cette femme, ils étaient venus pour accuser Jésus, eh bien c'est eux qui se retrouvent accusés par leur propre conscience. Ils se retirent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Ces hommes sont donc venus pour accuser cette femme et Jésus. Ils se retrouvent maintenant accusés dans leur conscience parce qu'ils savent leur véritable condition de pécheurs. Ils savent leurs mauvaises pensées, ils savent leurs péchés secrets. En apparence, ils sont l'élite du peuple, ils sont la religion qui est la plus suivie, c'est la religion juive. Ils sont le samedi à la synagogue, ils prient Dieu, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Personne ne le sait, mais ils ont des mauvaises pensées, peut-être même des pensées d'adultère, des pensées de jalousie, des pensées de méchanceté. Matthieu 15-19, Jésus dit, « C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Alors le péché n'est pas seulement l'acte commis, mais il est déjà dans la pensée. Et ces gens qui n'avaient pourtant pas commis littéralement l'adultère, ils avaient des mauvaises pensées dans leur cœur qui étaient aussi du péché, qui étaient aussi de mauvaises choses qu'ils devaient régler. Et ils avaient besoin de purifier leur cœur. Malgré leur religion, leur cœur n'était pas purifié. Malgré leur connaissance de Dieu, leur cœur n'était pas purifié. Ils suivaient la loi à la lettre, mais leur cœur n'était pas changé. C'est comme Paul l'a dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ils suivaient la lettre de la loi, et cela ne produisait que mort spirituelle. C'est la grâce de Dieu qui a changé la vie de cette femme, mais la grâce de Dieu, elle était la même pour ces pharisiens et ces scribes. Ils en avaient besoin pareillement. Jésus a donc renvoyé l'accusation aux accusateurs. C'était le seul qui pouvait à la fois pardonner cette femme et à la fois pardonner ces hommes. Mais il pouvait découvrir aussi le principe de la grâce, parce que Jésus n'était pas venu pour condamner ces hommes, mais pour leur ouvrir l'esprit, afin qu'ils changent d'attitude et qu'ils se repentent. Dans Romains chapitre 8, verset 1, tout le monde peut faire cette expérience. Si vous acceptez Christ comme Sauveur et Seigneur, la Bible donne cette promesse. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le diable vous accusait, les hommes vous accusaient, ils ont fait du mal. Mais si vous êtes en Jésus-Christ, il y a un avocat, il y a quelqu'un qui plaide pour nous. La condamnation est anéantie. Vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes pardonné, vous êtes lavé, vous êtes libéré. Ces gens ne le savaient pas, mais ils étaient aussi accusés. Ils se croyaient supérieurs, mais ils avaient besoin de la même grâce que cette femme. Cette femme, finalement, en a goûté l'expérience, elle a été pardonnée de ses péchés, tandis que ces hommes sont repartis chez eux, pécheurs. Même si, en apparence, ils étaient toujours pareils, ben, ils n'ont pas changé d'attitude. Un cinquième point, c'est le verset 10. Les versets 10 à 11, c'est maintenant la restauration de la femme, parce que Jésus ne se contente pas de la pardonner, mais il va la relever. Le verset 10, « Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Jésus n'est pas venu pour vous condamner, mais pour vous pardonner de vos péchés. C'est le seul qui est habilité pour le faire. Il était seul à être sans péché. Et quand Jésus vous dit « Je ne te condamne pas non plus », c'est qu'il a porté votre péché. Tite 2,11 dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes ». Jésus, c'est la source de salut, non pas simplement pour une partie de l'humanité, mais pour tout être humain. Elle a été manifestée en Christ. Seul Jésus peut donner un nouveau départ dans votre vie. Alors Jésus demande à cette femme une chose. Maintenant que tu es pardonné, il lui dit « Va et ne pêche plus ». Ça veut dire « Ne continue pas dans cette vie de débauche, dans cette vie de péché ». Jésus ne vous fera pas grâce pour vous pardonner vos péchés et vous laisser dans le péché, mais il vous dira « Quitte cette vie de péché, quitte cette vie d'adultère, quitte cette vie de débauche, quitte cette vie qui est loin de Dieu et marche dans les voies du Seigneur ». Parce que Jésus n'est pas simplement venu pour vous pardonner de vos péchés, mais il a pour vous un projet pour votre vie, un projet de bonheur, un projet de bénédiction. Et il sait très bien que si vous restez dans vos péchés, vous ne pourrez pas être heureux et vous ne pourrez pas vivre la vie que Dieu a pour vous. Donc cette femme a bénéficié de ce conseil. Va et ne pêche plus. Ne retourne plus dans l'adultère. Retourne avec ton mari. Réconcilie-toi. Reforme ce foyer. La grâce de Dieu n'est pas une excuse au péché. Ce n'est pas une justification du péché. Jésus lui dit, tu es pardonné, oui, tu es lavé, oui, mais maintenant, garde-toi pur. Tu as la prière, tu as la parole, tu as tout ce qu'il faut pour marcher dans les voies du Seigneur. Alors Paul nous recommande d'entretenir notre esprit de 8 choses. Philippiens chapitre 4, verset 8, qui vont nous aider dans notre vie chrétienne à ne pas céder à la tentation. Au reste, frères, on pourrait dire frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Va et ne pêche plus. Entretiens ton esprit des bonnes paroles de Dieu. Entretiens-toi des promesses de Dieu. Prie le Seigneur. Vis cette vie chrétienne. Et avec ce conseil, donc, vous ne laisserez plus dans votre esprit les mauvaises pensées, les pensées de jugement, les pensées de critique, les condamnations, le désespoir, la méchanceté, la dévalorisation, la calomnie, l'immoralité. Tout cela doit sortir de notre esprit et au contraire, nous devons y mettre tout ce qui est bon, vrai, aimable. En conclusion, on voit que cette femme était accusée, elle était accusée par ces hommes, elle était condamnable selon la loi, elle méritait une condamnation et dans ce monde, les hommes ne vous pardonneront pas, ils ne vous feront pas grâce, ils vous jugeront, ils vous condamneront. Mais Jésus peut vous donner un nouveau départ, Jésus peut vous ouvrir une porte et vous donner une nouvelle chance. C'est le seul qui peut pardonner les péchés. Il y a un besoin spirituel au fond de chacun de nous, c'est d'être lavé, purifié, c'est d'être pardonné de nos péchés. Dieu seul peut le faire. Alors si vous demandez sincèrement au Seigneur pardon pour vos péchés, Jésus viendra habiter dans votre cœur et vous donnera un nouveau départ. Il donnera un nouveau sens à votre vie. On va prier quelques instants. Merci encore pour ta parole, merci pour l'exemple de cette femme que tu as pardonnée, que tu as relevée alors qu'elle était accusée par tous, condamnée même par la loi de Moïse. Seigneur, tu es venu avec cette parole de grâce, cette parole de réconfort, cette parole qui a permis à cette femme d'être réhabilitée, d'être relevée, et tu lui as donné un nouveau sens à sa vie, une nouvelle direction pour prendre un nouveau départ qui était loin du péché et qui était dans le pardon et dans la grâce. Merci de ce que tu le fais encore aujourd'hui pour quiconque se tourne vers toi avec foi, parce que même si les hommes condamnent, même si les religions montrent tout ce qui est mauvais, eh bien, nous voulons croire que toi, tu es celui qui ouvre la porte pour aller au ciel et que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous donner un nouveau départ, pour nous permettre de ressortir avec la paix de Dieu dans nos cœurs. Merci, Seigneur, pour la purification, pour la nouvelle vie que tu donnes, qui est gratuite, qui est obtenue par ton sacrifice. Ô Seigneur, nous ne voulons pas cacher nos péchés devant toi, mais nous voulons les confesser et les déposer à tes pieds, en croyant que tu es puissant pour nous pardonner et nous purifier. Oui, bénis Seigneur, bénis chaque famille, chaque couple, chaque personne dans ce lieu, afin que nos vies soient transformées à ta gloire, pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.